session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe le 9 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème : la vérité.
Ce que je vous avais dit ce matin, on peut se demander quelle est la vérité de la foi au plan surnaturel. Et après, nous continuerons de voir comment pouvons-nous dire que Dieu est la vérité. La foi, adhésion à la parole de Dieu. Donc c'est dans un jugement. Un jugement qui ne vient pas de nous, qui vient de l'Esprit Saint, de la grâce. Présuppose un amour, puisque on adhère à une parole divine dont le contenu nous dépasse complètement. Je n'ai pas l'évidence. Quand je dis que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas l'évidence. Je n'ai pas l'expérience. Sauf divinement, mais humainement pas. Quand je dis Dieu est amour, je peux en avoir l'évidence. Alors j'y adhère comme à une conclusion de sagesse. Et on verra demain qu'est-ce qui est la mesure du jugement du don de sagesse. Et si je prends la foi surnaturelle, disons que nous croyons en Dieu. Croyons dans le Christ, qui est le Verbe devenu chair, qui a achevé toute la grande attente de l'Ancien Testament, qui a mis le point ultime, l'achèvement de la loi. Qu'est-ce qui me permet de dire que ce que je crois est vrai? C'est quand même une grande question, ça, hein. Parce que tant que vous ne pouvez pas dire ça, votre foi reste bancale en face de quelqu'un qui dit juste l'inverse. Alors, c'est un cas tout à fait particulier. Je prends l'analogie. Donc, le cas semblable est tout à fait différent de la foi au niveau amitié. Mon ami a fait un très beau voyage. Il a été à Patmos. Et je n'y ai pas été. Et je lui dis ce que j'ai vu. Et mon ami, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, dit : je crois ce que tu dis, parce que j'ai confiance en toi. Je crois que ce que tu dis, et je crois que ce que tu dis est vrai. Parce que j'ai confiance en toi. Si j'avais pas confiance en toi, je pourrais pas dire oui. Je pourrais pas dire que ce que tu dis est vrai. J'ai confiance en toi. Donc, l'adhésion dans un acte de foi humaine, repose sur la confiance qu'on a dans le témoin. L'ami est témoin. Il a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Il est témoin. Et j'ai confiance en lui. J'adhère en lui. Quel est ce qui me permet de dire ce que tu me dis est vrai? Ce n'est pas l'évidence que j'en ai, puisque j'en ai pas. Je ne l'ai pas vu, moi. Je n'ai pas fait cette expérience. Donc, j'ai aucune évidence. Et je dis, ce que tu me dis est vrai. Et je crois que c'est vrai. C'est à cause de la confiance que j'ai dans l'ami. C'est d'une vérité à l'intérieur d'une croyance. Et la mesure de la vérité, du contenu de la foi humaine, provient du degré de confiance que j'ai en l'ami. formelle de la foi, c'est la vérité première se révélant. C'est la vérité première se révélant. Je reçois de Dieu la vérité qu'il me communique. Et j'ai toute confiance parce qu'il est la vérité première. Donc la foi va être une adhésion à la vérité première se révélant. Dans un jugement obscur. Pas l'évidence. J'ai la certitude, mais j'ai pas l'évidence. Et je peux adhérer grâce à la confiance que j'ai en Dieu. Cette confiance repose sur un amour. Tout acte de foi présuppose un amour à l'égard de Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas adhérer. Parce que je n'ai pas confiance. C'est pour ça que chaque fois qu'on est tenté au point de vue de la foi, il faut revenir à l'amour. Il ne faut pas se mettre à critiquer. Dire, mais qu'est-ce que c'est que ce contenu? Non, parce que là, vous ne pouvez pas vérifier. Vous n'avez jamais à côté de vous quelqu'un qui a vu Dieu. Moi, je n'en ai pas encore rencontré. Quelqu'un qui a eu la vision béatifique et qui vous dit, voilà, j'ai vu, c'est bien ça. Non. Donc, vous ne pouvez pas critiquer le contenu. La foi est incritiquable. Mais adhérer à Dieu qui me parle, étant donné que j'ai toute confiance en Dieu, alors c'est souverainement prudent. C'est pour ça que quelqu'un qui dit « Ah, c'est complètement imprudent de ne pas croire. » Moi je dis « C'est souverainement imprudent de ne pas croire. » Parce que si vraiment Dieu a parlé et que vous refusez son message, et qu'est-ce que vous êtes à côté de Dieu? Ah, vous pouvez douter, vous pouvez dire peut-être c'est pas ça, mais est-ce que ce que Dieu vous révèle est contraire à votre intelligence dans sa recherche de la vérité? Et vous voyez que tout ce que Dieu a révélé n'est pas contraire à ma recherche de la vérité. Il n'y a rien dans la foi qui est contraire à une vérité d'ordre philosophique, d'ordre d'une sagesse philosophique. Jamais une vérité de foi ne sera en contradiction avec une vérité scientifique. Jamais. La contradiction peut apparaître dans l'usage que vous faites de la révélation, de la découverte scientifique. Mais pas dans la découverte scientifique elle-même. Cette découverte scientifique est une sérieuse découverte scientifique. Elle ne peut pas être en contradictoire avec votre sagesse philosophique et encore moins avec votre sagesse divine, parce qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde. La foi me rattache à Dieu lui-même, donc c'est plus que la hauteur de toutes les autres vérités. C'est directement Dieu qui me révèle, c'est ça qui est foudroyant. C'est directement Dieu qui se révèle à moi par l'intermédiaire de la parole révélée. Et ma foi ne s'arrête pas à la parole. Je ne dis pas que la raison formelle de la foi, c'est la parole de Dieu. Non, c'est la vérité première. Et la parole est un moyen. C'est un moyen d'atteindre la vérité première. Le mystère auquel je crois, c'est la vérité première. Ce n'est pas la parole. Je dépasse la parole pour adhérer au mystère. ça vous montre tout de suite que la parole de Dieu, c'est le sycomore qui me permet de regarder Dieu. J'en ai besoin, puisque Dieu me le donne. C'est un moyen merveilleux, mais je ne m'arrête pas à la parole de Dieu. Je contemple le mystère. Je ne contemple pas la parole de Dieu. Je m'en sers merveilleusement. Il ne peut pas y avoir donc de contradiction entre la vérité révélée et les conclusions scientifiques et les vérités philosophiques. S'il y a des apparences de contradiction, je dis bien ce sont des apparences de contradiction, c'est parce que où je comprends mal ce qui m'est révélé, je confonds le langage symbolique et le langage propre. Vous voyez, quand je parle des mains de Dieu, c'est évident que Dieu n'a pas de main. Alors je pourrais dire, oui, c'est contraire à la vérité scientifique, à la vérité philosophique, puisque le philosophe dit que Dieu est sans corps. Or, la révélation dit que Dieu a un corps. Il parle de la main. Il dit que Dieu marche. Donc la révélation parle du corps de Dieu. Pas du tout. Il y a un langage symbolique. Et ce langage symbolique est très important. Parce que c'est si je confonds ce langage scientifique symbolique avec un langage proprement philosophique, alors à ce moment-là, je vois toutes les contradictions. Donc, les contradictions viennent où ? Parce que je comprends mal la parole de Dieu et ce qui m'est enseigné par Dieu. Et la théologie est là pour permettre et bien montrer comment il faut comprendre la parole de Dieu. Ou bien, j'exagère du côté scientifique, les propagandes scientifiques. Et quand on dit par exemple que le savant va arriver à montrer la création, le Big Bang, c'est pas la création. C'est la manière dont le savant essaie de comprendre à sa manière scientifique le point de vue de la création. Puisque la création est au niveau de l'être. Et la lecture de ce midi nous le rappelait avec le père Danielou. Le savant ne touche pas l'être, il touche les formes et le devenir. Donc, il y a quelque chose d'unique dans la vérité de foi, c'est qu'elle est absolue. Elle est absolue. Et elle me conduit à la vérité éternelle qui vole à deux hauteurs différentes, ne se rencontre jamais sauf sur le terrain quand ils atterrissent. La foi et la science sont à des niveaux d'intelligibilité totalement différentes. Le terrain d'atterrissage, c'est l'intelligence de l'homme. Alors le terrain d'atterrissage est dans l'intelligence de l'homme. Quelquefois l'homme confond tout. Alors c'est plutôt lui qui confond. Mais il n'y a pas d'opposition, il ne peut pas y en avoir. Et la raison que donne saint Thomas est très simple. C'est que c'est Dieu qui est source de mon intelligence. Et c'est Dieu qui est source de ma foi. C'est le même Dieu qui est source de ma foi et source de mon intelligence, source de ces deux lumières. Vous voyez que la vérité de foi, puisque elle s'appuie sur le témoignage de Dieu, et que pour adhérer à ce témoignage, il faut une totale confiance. La foi est donc analogue aux connaissances affectives. Il faut aimer pour croire. enseignement objectif. C'est l'enseignement objectif d'un ami et d'un père. Et toutes les erreurs viennent de là la plupart du temps. C'est qu'on considère, on veut juger la foi dans la lumière d'une connaissance scientifique moderne, mathématique moderne. Alors que ce n'est pas ça la foi. C'est un dialogue avec Dieu. C'est une relation personnelle avec Dieu. Alors, je vais regarder avec vous, continuer avec vous, le point de vue de la vérité en Dieu. Nous avions donc commencé cet article pour montrer comment Saint Thomas, je vais le terminer rapidement, mais je vous rappelle le parallélisme, l'analogie que Saint Thomas établit entre le bien et le vrai. Je vais tout relire. Voici la solution de ce doute. On appelle bien ce à quoi tend l'appétit. Ainsi, l'on appelle vrai ce vers quoi tend l'intelligence. Mais s'il y a cette différence entre l'appétition, c'est-à-dire l'amour, le désir, et l'intellection, ou tout autre mode de connaissance, que la connaissance se réalise par introduire le contenu de la pensée dans le sujet connaissant. Et l'appétition, donc le désir, au contraire, suppose que le sujet s'incline et se porte vers la chose désirée. Il s'ensuit que le terme du mouvement de l'appétit, qui est le bien, se trouve dans la chose désirable. Mais le terme de la connaissance, qui est le vrai, a son lieu dans l'intelligence. Ça, c'est très très intéressant. Il faut souvent y revenir. Le mouvement différent de l'intellection, de la connaissance, de la pensée, et le mouvement de l'amour. La pensée intériorise, ramène tout au sujet connaissant. L'amour est extatique. Il nous porte vers le bien qui est toujours au-delà de nous. Toutefois, de même que le bien est dans la chose, sans doute, mais en raison du rapport de cette chose avec l'appétit, de telle sorte que la qualification de bien dérive de la chose désirable à l'appétit lui-même, ce qui fait appeler bon un appétit de bien. Quand j'aime une réalité bonne, je deviens bon. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ainsi, le vrai étant dans l'intelligence, selon que l'intelligence s'adapte à la chose, il y a nécessité que le caractère du vrai dérive de l'intelligence à la chose, et que la chose elle-même soit une vraie en tant qu'elle se rapporte en quelque manière à l'intelligence. Mais la chose objet de l'intelligence peut se rapporter à l'intelligence soit essentiellement, soit accidentellement. Elle se rapporte essentiellement à l'intelligence dont dépend son être. Elle se rapporte accidentellement à l'intelligence qui trouve en elle du connaissable. Comme si nous disions que la maison a un rapport essentiel à l'intelligence de son architecte et un rapport accidentel aux intelligences dont elle ne dépend point. Donc l'intelligence de ceux qui sont dans la maison. Très curieux. Ouais. L'architecte peut dire, cette maison, elle est plus proche de moi que vous qui l'habitez. et qu'elle n'est pas dans l'intelligence de ceux qui l'habitent. Progressivement, elle viendra dans l'intelligence de ceux qui l'habitent. Mais progressivement, il faut du temps. C'est très très joli ça, vous voyez. Et c'est très intéressant comme petite comparaison, vous allez voir. Or, une chose ne se juge pas en considération de ses caractères accidentels, mais en raison de ses caractères essentiels. On dira donc une chose vraie, absolument parlant, par comparaison avec l'intelligence dont elle dépend. De là vient que la production de l'art, que les productions de l'art sont dites vraies par rapport à notre intelligence à nous. Par exemple, une maison a sa vérité quand elle revêt la forme d'art qui a été conçue par son architecte. Une parole est vraie quand elle manifeste une pensée vraie. De même, les choses naturelles se voient attribuer leur vérité selon qu'on les juge conformes aux conceptions de l'intelligence divine. Puisque, je suis en théologie, puisque toute chose a été créée par Dieu, donc toute réalité a été pensée par Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une demeure en Dieu, puisque Dieu nous a pensé. Actuellement, Dieu nous pense. C'est pas si mal d'être pensé par Dieu. Vous voyez ? Et nous sommes relatifs à cette pensée de Dieu, puisque notre être dépend de Dieu et de la sagesse de Dieu. Et donc, nous sommes vrais quand nous sommes conformes à cette pensée divine. De même, les choses naturelles se voient attribuer leur vérité selon qu'on les juge conformes aux conceptions de l'intelligence divine. On appelle vraie pierre celle qui a la nature propre à une pierre. Telle que l'a préconçue l'intelligence de Dieu, telle que l'a conçue l'intelligence de Dieu. Ainsi donc, la vérité est principalement dans l'intelligence. Elle est à titre secondaire dans les choses, selon que les choses ont un rapport avec l'intelligence, comme avec leurs principes. C'est à ces causes qu'on a pu donner de la vérité des définitions diverses. Saint Augustin, dans son traité de la vraie religion, la définit ainsi. La vérité est la manifestation de ce qui est. Vous voyez, comme c'est proche de Heidegger. La vérité est la manifestation de ce qui est. Vous vous souvenez, la vérité est le dévoilement de l'être. Le dévoilement, c'est la manifestation. Donc c'est très augustinien. La vérité est la manifestation de ce qui est. Saint-Hilaire dit de son côté, le vrai est la déclaration ou la manifestation de l'être. Deux définitions se rapportant à la vérité dans l'intelligence. Dans l'intelligence divine. Touchant la vérité des choses par rapport à l'intelligence, on peut citer cette autre définition de saint Augustin. La vérité est la parfaite similitude de chaque chose avec son principe, sans nulle dissemblance. Vous voyez, c'est une précision plus grande. La vérité est la parfaite similitude de chaque réalité avec son principe, sans nulle dissemblance. Et celle-ci, de saint Anselme, la vérité est une rectitude constatée par l'esprit. Car cela est droit ou correct, qui concorde avec son principe. On cite encore cette définition d'Avicenne. La vérité de chaque chose consiste dans la propriété de son être tel qu'il lui a été attribué. Quant à ce qu'on dit que la vérité dire aussi en philosophe. Il le dit en philosophe, c'est que ça ne doit pas le dire en théologien. Alors, théologien, c'est vrai. En philosophe, c'est pas juste, puisque je n'ai pas l'expérience directe de la création.
Il a vu que l'intelligence de Pierre
affirmation la plus nette, c'est quand ce qu'il dit, Pierre existe. Alors ça, c'est net. Pierre existe. L'examinateur dira aussi, Pierre existe. Il a passé son examen, il existe. C'est pas un fantôme, il existe. Et l'autre dira, Pierre existe parce qu'il l'aime. Je sais bien qu'il existe. Mais parce qu'il l'aime, il verra tout à travers son amour. Il dira, très intelligent. Alors quand il dit Pierre est très intelligent, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, au point de vue de la vérité affective. L'examinateur, quand il dit c'est un imbécile, est-ce que c'est vrai? C'est vrai en fonction de la mauvaise note qu'il a eue. Il n'a pas su répondre. Alors, pour l'examinateur, c'est un imbécile. Mais pour l'examinateur, pas autrement, il n'est pas un imbécile absolu. Et c'est pour ça que, ayant raté complètement son examen, Pierre viendra trouver Arthur, son ami. Il dira, j'ai complètement raté, je suis un imbécile. Et là, l'autre, mais pas du tout, c'est l'examinateur qui est un imbécile. Et par là, il lui rendra confiance. Il lui rendra confiance. Vous voyez? Ça, c'est très cruel, le jeu de la vérité, vous voyez? C'est pas commode. Hein. Parce que de fait, ça ne veut pas dire que la vérité est immobile, pas du tout. Il y a une vérité, Pierre existe. Et cette vérité, Pierre existe, hein. C'est la vérité métaphysique sur Pierre. Il existe. Il est un homme. Il a l'existé d'un homme. Voilà ce que dira le philosophe. Il a l'existé d'un homme. Il n'a pas l'existé du singe. Il a l'existé d'un homme. Mais par rapport à sa volonté, par rapport à son intelligence, par rapport à ses qualités d'artiste, là encore c'est encore beaucoup plus varié. La qualité d'artiste. La critique au niveau artistique, comme c'est varié. Et les artistes le savent très bien. Je te demande à toi de me faire une critique d'art parce que je sais que tu comprendras. Puis je ne vais pas demander à un autre parce que je sais que lui ne comprendra rien du tout. Et c'est vrai, ça, c'est comme ça que ça se passe. En sciences mathématiques, oui, on reconnaîtra, puis pas toujours, hein, même en sciences mathématiques, pas toujours. Donc voyez comment le théologien montre qu'il y a une vérité fondamentale dans l'intelligence de Dieu et que la connaissance que Dieu a de Pierre, c'est la connaissance du Créateur et que la vérité première, elle est en Dieu. La vérité seconde, elle est dans la réalité créée et la vérité troisième, elle est dans l'homme qui cherche. C'est pour ça que le savant, ce grand biologiste que je connais, dit plus je creuse dans ma science biologique sur la complexité du corps humain, plus cela me fait penser à la sagesse de Dieu. Alors, ça m'a été dit comme ça. C'est très beau. C'est un croyant qui me dit ça. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce que sa connaissance scientifique sur le corps humain peut-il dire que plus j'étudie la complexité organique du corps humain, plus j'étudie en même temps son unité? Vous savez que c'est formidable aujourd'hui. Si je redécouvre un tout petit bout d'os d'un cadavre qui est mort il y a 1000 ans, d'un homme qui est mort il y a 1000 ans, je pourrais reconnaître si les reliques de Saint-Benoît et de Saint-Scolastique sont les mêmes. Si on les a mis ensemble, c'est très beau du reste de les mettre ensemble, puisqu'ils s'aimaient beaucoup. Alors le savant dira, ah, pas du tout, il y a un tibia qui n'est pas du tout celui de Saint-Benoît. Il redécouvre par là qu'au Moyen-Âge, on mettait toutes les reliques dans le même sac. Remarque, c'était très beau, parce que ça fait le corps mystique. Au point de vue cadavérique, donc symboliquement, ça exprime symboliquement. Parce que tous les corps des saints, je crois que du haut du ciel, ne faut pas enrichir Ah, tu as pris mon corps. Pas du tout. Les hommes, aujourd'hui, avec la science, ils cherchent à connaître le corps de l'homme. Est-ce que, en étudiant scientifiquement le corps de l'homme, je vais atteindre directement la sagesse de Dieu? Non. Ça, c'est merveilleux comme petit problème auprès de la vérité. Parce que c'est une connaissance biologique, donc qui est forcément partielle, alors que la sagesse de Dieu est une connaissance, je ne dis pas globale, non pas synthétique, mais en profondeur. La connaissance de Dieu sur l'homme se fait par l'âme. Et la connaissance biologique du biologiste sur l'homme se fait par le corps. Il n'a jamais atteint l'âme. Donc, il n'atteint pas la sagesse de Dieu. Mais je ne lui ai pas dit parce que ça lui aurait fait trop de peine. Alors, je n'ai pas dit à ce savant biologiste, non, non, pas du tout, c'est pas la sagesse. J'ai dit, continue de chercher. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Quelqu'un qui cherche comme ça, très honnêtement, il faut le laisser. Mais en réalité, rétablissons la vérité. Dieu me connaît par mon âme, de l'intérieur. Il a une connaissance exhaustive de ce que je suis, une connaissance totale que je suis. Et Jésus aussi, dans sa science infuse, il me connaît tel que je suis, par mon âme. Voyez, l'ami qui connaît son ami par l'amour qu'il a pour lui et qui connaît par le fait même son âme est plus proche de la connaissance de sagesse de Dieu sur son ami que le savant. Alors, je vais voir avec vous tout de suite dans cette question sur la vérité, puisqu'on n'a pas le temps de tout voir, malheureusement. Il faudrait pour tenir 15 jours ici. Or, les grèves sont terminées pour vous permettre de partir, n'est-ce pas? Si j'avais su, j'aurais dit de continuer, n'est-ce pas? Dieu est-il vérité? Article 5. Dieu est-il vérité? Dieu est-il vérité? Voici ce que dit saint Thomas. La première objection, on ne voit pas bien le sens de cette affirmation. Dieu est-il vérité? La vérité consiste, a-t-on dit, dans la composition, la division opérée par l'intelligence. Or, en Dieu, il n'y a rien de tel. C'est évident que la vérité, si Dieu est vérité, il l'est d'une manière totalement différente que la vérité qui est dans mon intelligence. Alors, ce qui est très intéressant dans ce corps de l'article, c'est de voir tout de suite la très grande modalité différente de la vérité, Dieu et moi. Ah, voici le corps de l'article. Le Seigneur dit, je suis la voie, la vérité et la vie. D'après ce qui précède, la vérité se rencontre dans l'intelligence, selon que l'intelligence appréhende une chose telle qu'elle est, selon que l'intelligence juge, discerne d'une chose telle qu'elle est. Et elle se trouve dans les choses, selon que les choses peuvent entrer en rapport de conformité avec l'intelligence. Or, cela convient souverainement à Dieu. Maximé, hein, c'est le souverainement de saint Thomas, c'est le maximé. Or, cela se trouve maximé. C'est une très belle expression, hein, c'est quasi intraduisible. Le maximé. Éminemment, souverainement. Au-delà de toutes les limites, la vérité en moi est limitée, en Dieu elle est illimitée. Elle est infinie. Donc, or, cela se trouve souverainement en Dieu. Car l'être de Dieu, non seulement est conforme à son intelligence, mais son acte d'intelligence même et son acte même d'intelligence en Dieu. Il y a identité entre pensée et être, ce que Descartes aurait souhaité pour lui. On a tous une nostalgie que notre être soit résorbé de notre pensée et que notre pensée soit notre être. On serait complètement lumineux pour nous. Non, on ne l'est pas. On a une opacité à travers notre corps. Car l'être de Dieu, non seulement est conforme à son intelligence, mais l'être de Dieu est son acte d'intelligence même. Et cet acte d'intelligence est la mesure et la cause de tout être distinct du sien, de toute intelligence autre que la sienne. Et lui-même est son propre être et sa propre intellection. Il s'ensuit non seulement que la vérité est en Dieu, mais que Dieu même est la vérité même, la souveraine et première vérité. Donc vous voyez, c'est très simple comme argumentation, et c'est très beau, ça vaut le contempler. En Dieu, il n'y a pas de composition, puisque Dieu est l'être premier. Donc Dieu est souverainement simple, totalement simple. Si Dieu est totalement simple, en lui, la distinction entre pensée et être n'existe pas. L'être de Dieu est sa pensée, et la pensée de Dieu est son être. Vous voyez, c'est là où nous commençons à contempler comment la contemplation de Dieu, c'est son être. Et si Dieu est créateur, comme être premier, il est donc créateur à travers sa sagesse. Et tout ce qu'il crée, il l'a pensé. Et il le porte en lui. Nous ne sommes pas quelque chose de Dieu, mais nous sommes conformes à l'idée que Dieu a de nous. Tu vois, nous pouvons être conformes à l'idée que Dieu a de nous. Alors, à partir de là, c'est facile de répondre à Saint-Augustin, du moins facile de répondre à cette première objection. Bon, c'est pas Saint-Augustin. Il y a certes en Dieu ni composition ni division de concept, mais par sa simple intelligence il juge de tout, il connaît toute composition et toute division réelle ou possible. C'est ainsi que dans son intelligence est la vérité. Donc la vérité de Dieu est absolument simple, c'est son être. Il n'y a qu'en Dieu où il y a identité absolue entre être et vérité. En nous, il n'y a pas d'identité entre être et vérité. Nous sommes vrais, entitativement parlant, ontologiquement parlant, nous sommes vrais, étant conformes à l'idée du Créateur. Nous acquérons la vérité par notre intelligence, progressivement. Oui. On acquiert la vérité et on expulse les erreurs, les ignorances. Dans toute intelligence humaine, il y a des poussières d'erreurs. Il y a des poussières d'erreurs. Tous, personne d'entre nous n'oserait dire que son intelligence est entièrement possédée par la vérité. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas lumière. Quand je dis que Dieu est lumière, je veux dire que Dieu est vérité. Alors on verra peut-être demain la petite nuance qu'il y a entre affirmer Dieu lumière et Dieu vérité. Il y a deux mots, donc c'est pas tout à fait la même chose. Lequel est plus symbolique, Dieu lumière ou Dieu vérité? Eh bien, Dieu Tu es lumière et plus symbolique que tu es vérité. Tu es vérité n'est pas symbolique du tout. C'est pour ça que dans les psaumes, on dit beaucoup plus tu es lumière, bien qu'on dise que tu es vérité. Vous voyez, la vérité est relative à l'intelligence. La lumière, elle est relative au monde physique. Et du monde physique, je monte à l'intelligence. Si la lumière est relative au monde physique, quand je dis que Dieu est lumière, mon langage est symbolique et métaphorique. Tandis que quand je dis que Dieu est vérité, j'atteins direct.